D'abord, je tiens à remercier vos professeurs John Pierre et Francis Berthelot d'avoir eu la gentillesse de m'inviter de participer à leur séminaire prestigieux en narratologie. J'avais déjà eu le plaisir de rencontrer John Pierre à Hambourg pendant un colloque de narratologie et je suis tout content de le revoir maintenant à Paris en compagnie de M. Berthelot. Ma présentation se composera de trois parties, chacune d'une demi-heure à peu près, pour lesquelles vous avez reçu donc trois dossiers. Alors je vais commencer par une présentation de mon approche narratologique. Ensuite, avec l'autre dossier, nous allons analyser la technique narrative transgressive dans Kamouraska, un superbe roman de 1970 de la romancière et poète québécoise Anne Hébert. J'aimerais montrer dans ce roman comment la dualité identitaire de la protagoniste est exprimée par ses transgressions du code social combinées avec des transgressions narratives. Hein, donc vous voyez, j'essaie de combiner le fond et la forme toujours. Et là, il y a des transgressions narratives, mais aussi des transgressions du code social, en rapport aussi avec la dualité identitaire de la protagoniste féminine. Finalement, comme un peu de distraction aussi, deux heures de cours, c'est quand même long, nous allons regarder ensemble un récit de Guy de Maupassant, La Bûche. Et nous allons voir dans ce récit, que j'ai distribué aussi, une analyse narrative et thématique, et nous verrons comment la technique narrative persuasive de ce récit a mené à des interprétations erronées dans la réception critique de ce récit. Nous allons le voir, le protagoniste veut convaincre son auditrice de la perfidie féminine comme raison de son célibat, mais nous allons voir que finalement il y a une couche plus profonde dans ce texte et que les critiques, en tout cas certains critiques essentiels de l'œuvre de Maupassant, ont finalement donné une interprétation erronée parce qu'ils ont été dupes de la technique narrative dans ce récit. Je propose que nous aurons une discussion après chaque partie pour animer un peu la présentation aussi. Évidemment, si je ne suis pas clair, vous pourrez m'interrompre. Regardons d'abord le premier dossier narratologique. Alors, j'ai copié la page de titre de mon essai de typologie narrative que j'ai publié en 1981 et qui a été réédité chez Corti en 1989. Mon objectif était, dans ce livre, d'élaborer une typologie narrative, donc il y a beaucoup de théories effectivement, un peu un état de la question de la narratologie de cette époque, et j'ai essayé de combiner la classification des critères narratologiques ébauchés par des narratologues comme Genette, avec une approche typologique, donc pour combiner ensemble ces critères narratifs sous un type narratif. Donc là, il y a combinaison Genette qui a fait une excellente classification des critères. J'ai essayé de combiner ces critères et de les regrouper ensemble sous des types narratifs fondamentaux. J'ai comparé ensuite ces typologies narratives que j'ai ébauchées dans ce livre avec des approches anglo-saxonnes de cette époque, Percy Lubbock, Friedman, les approches anglo-saxonnes, les approches allemandes, en particulier Stanzel avec toute une série de livres, une typologie tchèque de Dolezel et soviétique Uspensky. J'ai appliqué ensuite dans ce livre la typologie narrative à deux romans, surtout aux Illustres françaises de Robert Schall, c'est un roman du début du XVIIIe siècle, et ensuite à 10h30 du soir en été de Marguerite Duras. Alors donc plus récemment, j'ai publié en 2000 Aspects de la narration, thématique, idéologie, identité, avec des analyses de textes de Guy de Maupassant, de Julien Green et de deux auteurs québécois, Anne Hébert et Jacques Poulain. Donc, j'ai eu une formation en littérature française, mais en 86, J'ai découvert le Québec avec la littérature québécoise et ça a renouvelé mes recherches. Et mon département d'études françaises aussi, et maintenant la littérature québécoise fait partie obligatoire aussi du programme de littérature française. Et il y a toute une série d'échanges avec les universités au Québec. Donc un renouvellement pour moi-même et pour les étudiants aussi. J'aimerais parcourir avec vous l'introduction de ce livre pour vous donner d'abord une idée de mon approche narratologique que nous allons appliquer donc ensuite dans une analyse du roman d'Anne Hébert, Kamouraska, et ensuite on va l'appliquer au récit de Guy de Maupassant. Alors d'abord, si on prend la présentation, donc je vais suivre un peu ces textes, alors là, j'explique dans le paragraphe d'ouverture ma fascination du rapport, effectivement, entre forme et signification. À l'époque de la rédaction de mon doctorat, j'ai pu faire une année de recherche à l'Université de Genève avec Jean Rousset et Roland Barthes, qui était prof invité à l'époque. Mais c'est Jean Rousset qui, à l'époque, m'a beaucoup inspiré avec forme et signification. Alors, si nous lisons, vous voyez un peu l'objectif que je me propose avec l'analyse narrative. Le texte narratif, donc c'est juste la présentation, hein. Le texte narratif présente une vision personnelle du monde et de l'être humain par la médiation d'une construction verbale et artistique. La forme spécifique de la représentation narrative est liée au contenu narré, à l'univers représenté dans les textes littéraires. Jean Rousset a clairement montré dans Forme et Signification que l'art réside dans cette solidarité d'un univers mental et d'une construction sensible, d'une vision et d'une forme. Car en art, la pensée ne se sépare pas de l'exécution, la vision est vécue dans la forme. Comme la technique narrative fait partie intégrante de l'ensemble d'un texte, la narration revêt des significations reliées à d'autres aspects de l'œuvre. Alors personnellement, je retiens la relation entre forme narrative, technique narrative et la thématique, suite à l'école de Genève effectivement, mais aussi avec l'idéologie des textes, chez Maupassant par exemple, la vision de la femme, la vision des classes sociales, et aussi avec la problématique identitaire des personnages. Alors ça va jouer dans le roman d'Anne Hébert que nous allons analyser. Dans ce cas-là, il s'agit de l'identité féminine, l'identité de gender, l'identité sexuée, comme on dit au Québec. Et ce qui joue aussi beaucoup dans les romans québécois, c'est l'identité culturelle. Les Québécois qui essaient de se définir par rapport à la France, par rapport au Canada anglais, par rapport aux États-Unis. Donc l'identité culturelle est un thème fondamental dans la littérature québécoise. Alors nous passons tout de suite à la page 16. Ensuite je résume un peu mon livre. Et à la page 16, je résume mon approche narratologique. Alors, ma typologie narrative est déduite de l'opposition fonctionnelle entre le narrateur, et là j'utilise le terme Autor, à la suite de Stanzel par exemple et les théories allemandes, et l'acteur. Donc vous voyez, mon point de départ, c'est l'opposition fonctionnelle, le narrateur qui raconte, qui remplit la fonction de représentation en assumant la narration du récit, et un acteur qui remplit une fonction d'action dans le contenu narratif du récit, l'histoire ou la diégèse dans la terminologie de Genette. Donc, toute la typologie narrative peut être déduite de cette opposition entre narrateur et acteur. Alors, cette dichotomie fonctionnelle entre le narrateur et l'acteur permet d'abord de déduire deux formes narratives de base, la narration hétérodiégétique de Genette et la narration homodiégétique. Si le narrateur ne joue pas un rôle d'acteur dans l'histoire, si le narrateur est un autre que les personnages dans l'action, dans les acteurs, hein, là c'est plus clair de parler d'acteurs, parce qu'un personnage peut aussi être narrateur, donc pour cette raison je préfère parler d'un acteur, c'est le personnage qui agit. Donc si le narrateur est un autre que les acteurs dans l'action, c'est la narration hétérodiégétique. Par contre, la narration est homodiégétique lorsqu'un même personnage remplit une double fonction, comme personnage narrateur et comme personnage acteur. Hein, donc vous voyez, le premier pas dans la distinction, ce sont les deux formes narratives de base, narration hétérodiégétique, narration homodiégétique. Cette opposition narrateur-acteur sert ensuite à établir les types narratifs selon le centre d'orientation adopté par le lecteur. Et là, de nouveau, deux types narratifs. Si le lecteur, et on est à la page 17 hein, maintenant, si le lecteur est guidé dans sa lecture par le narrateur, nous avons affaire au type narratif auctoriel. Hein, on est guidé par le narrateur. Alors, l'exemple canonique dans ce cas-là est le Père Goriot de Balzac, avec un narrateur qui guide la lecture, qui s'adresse au lecteur, qui focalise la description de la pension Vauquer. Au début, d'abord, hein, le quartier de Paris, ensuite la maison, puis les étages, et chaque étage correspond à un niveau social, etc. Donc, c'est vraiment le narrateur qui guide le lecteur, comme les 60 premières pages du roman. Voilà donc type narratif auctoriel. Il est question du type narratif actoriel si un des acteurs fonctionne comme centre d'orientation. Là, exemple canonique, Madame Bovary, Emma Bovary, au début, il y a la focalisation de Charles Bovary, c'est justement Jean Rousset, dans un bel article, un beau chapitre de forme et signification. Premier chapitre, Charles Bovary, qui voit Emma de l'extérieur. Ensuite, la focalisation tourne et on voit tout par les jeux et par les sentiments d'Emma Bovary. Et au fond, tout le tragique de la relation est là, le contraste entre la focalisation de Charles Bovary, qui ne va jamais plus loin, qui a vu Emma de l'extérieur et qui ne connaîtra jamais sa vie extérieure, juste à la fin du roman où il a constaté son suicide, il va prendre conscience des sentiments intérieurs de son épouse. Hein? Mais le lecteur est mieux au courant, le lecteur a partagé la focalisation d'Emma Bovary avec ses rêves romantiques. Donc, type narratif actoriel avec Emma Bovary. Alors, dans le schéma, vous voyez donc les deux types narratifs, orientés par le narrateur, orientés par l'acteur. Ensuite, la narration homodiégétique, qui connaît également deux centres d'orientation, celui du personnage narrateur, hein, rétrospectif, et celui de ce même personnage, mais alors en tant que personnage acteur. L'exemple clair est, me semble-t-il, la vie de Marianne de Marivaux, où il y a Marianne, narratrice de plus de 50 ans, qui raconte sous forme de mémoire sa vie passée et par exemple aussi les sentiments de Marianne, actrice de 15 ans. Alors il y a une belle scène avec un monsieur de Climal qui lui offre des vêtements, qui est parfaitement gentil. Dans l'optique naïve de la jeune fille, c'est un vieux monsieur gentil qui l'aide parce qu'elle est pauvre. Dans l'optique de la femme âgée, expérimentée, c'est un dirty old man qui veut faire sa conquête. Hein, et c'est le cas, par exemple, dans une phrase que je cite ici, monsieur, à propos, il caresse ses cheveux, monsieur de Climat les regardait, les touchait avec passion, mais cette passion, je la regardais comme un pur badinage. Hein, donc, dans l'optique, la focalisation actorielle du personnage acteur, c'est pur badinage. Dans l'optique de la femme expérimentée, c'est un signe de passion. Voilà pour la narration homodiégétique. Alors, à la page suivante, 18, je résume les deux types narratifs dans le schéma. Justement, dans les deux analyses pratiques que nous allons faire, Labuche et Kamouraska, il sera question, en partie en tout cas, une grande partie de la narration homodiégétique. Alors ensuite, je combine les deux schémas. À la page suivante, 19, je résume les critères narratifs les plus importants. Dans mon essai de typologie narrative, il y a beaucoup plus de critères, mais au fond, les critères qui m'importent le plus, je les résume ici. Alors vous voyez en bas de la page les schémas très distinctifs des types narratifs et du rôle diégétique. Au plan perceptif psychique, il y a la perspective narrative, ou maintenant on dit plutôt la focalisation. Type narratif auctoriel, focalisation du narrateur. Type narratif actoriel, focalisation de l'acteur. J'utilise deux critères là, je dissocie la perspective narrative, la focalisation de la profondeur de la perspective narrative. Je nette les intègres, focalisation interne, externe, etc. J'ai préféré deux critères. La perspective narrative, c'est qui voit, ou qui est le sujet de la perception plutôt, parce que ce n'est pas seulement la vue. Ensuite, la profondeur de la perspective narrative, ça veut dire quelle est la quantité de savoir du sujet de la perception sur l'objet perçu. Par exemple, dans le type narratif auctoriel, il y a omniscience, possibilité d'omniscience, dans le roman balzacien, un narrateur omniscient, et bien sûr, Madame Bovary, comme focalisateur, n'est pas omniscient. Au plan temporel, il peut y avoir dans le roman balzacien des anticipations certaines. Il anticipe sur le moment de l'action. Eugénie Grandet, par exemple, au mois de novembre, il annonce « à la fin de l'année, il y aura un drame terrible » au moment où il va montrer ce qu'elle a fait de son argent. Anticipation certaine, il n'y en a pas dans le type narratif actoriel. Au plan spatial, capacité d'omniprésence, ce n'est pas le cas avec Madame Bovary. Et commentaire à le narrateur balzacien, et qui intervient, qui s'adresse au lecteur avec des commentaires. Alors à la page suivante, 20, là j'explique, j'envisage le narrateur hétérodiégétique auctoriel comme une instance narrative susceptible d'être dotée de capacités suprahumaines. Dans le roman du 19e siècle de Balzac, un narrateur omniscient, omniprésent. Par contre, j'ai une conception anthropomorphique du personnage focalisateur dans le type narratif actoriel. Madame Bovary n'est pas omnisciente. Alors, ça joue également dans la narration homodiégétique. Là, vous voyez les critères schématisés de nouveau. Très distinctif des types narratifs homodiégétiques, auctoriel, le regard rétrospectif du personnage narrateur, actoriel, focalisation du personnage acteur. En dessous du schéma, je dis, comme je pars du principe que le personnage littéraire de la narration homodiégétique se comporte comme une personne réelle, je limite de nouveau ses compétences à celle dont dispose normalement l'être humain. Mais je ne pratique pas du tout une critique normative, donc je sais fort bien qu'un texte littéraire peut transgresser. Et justement, ça peut être tout à fait intéressant. Donc, comme je le dis en bas de la page, évidemment, le texte artistique n'est pas contraint par ces normes anthropomorphiques, car les possibilités linguistiques ne sont aucunement limitées par la vraisemblance psychologique. La production littéraire permet en effet des innovations créatrices. Donc, pas des critiques normatives. Donc, s'il y a un romancier qui transgresse, il s'agit justement de découvrir dans ce cas-là la déviation, disons, de la norme et de l'interpréter, parce que ça peut être justement tout à fait intéressant. Et c'est le cas justement, on va le voir dans le roman d'Anne Hébert. Là, il y a beaucoup de transgressions narratives, mais on les distingue justement parce qu'on est conscient que c'est une transgression des possibilités traditionnelles. Si un narrateur homodiégétique est quand même omniscient, ou si un narrateur homodiégétique ne dit pas « je », mais parle de soi-même à la troisième personne, c'est une transgression, mais on peut l'interpréter. Donc vous voyez, s'il y a des transgressions, je ne dis pas « Ah, c'est mal fait, c'est un mauvais texte », justement, on peut découvrir des innovations et on peut y essayer de trouver des interprétations intéressantes. C'est le cas, justement, dans le roman d'Anne Hébert. Bon, la production et la réception du monde narré est filtrée par le type narratif. Et cela implique donc qu'on influence la réception du texte littéraire, que la technique narrative influence la réception du texte dans l'art de lecture. Et c'est ce qu'on va voir justement dans l'analyse de La Bûche, où effectivement le narrateur, avec sa technique narrative persuasive, a induit en erreur, me semble-t-il, la critique de ce récit. Donc, technique narrative et réception et interprétation critique. Bon, ensuite, personnellement, ce qui me fascine, c'est de voir des rapports entre technique narrative et thématique, rapport avec l'idéologie et rapport avec la problématique identitaire. Alors, à la page 22, j'explique que pour l'analyse thématique, Rousset m'a beaucoup influencé. À la page 23, le rapport avec la sociocritique, combiner la technique narrative et la sociocritique, la vision du monde, l'idéologie. Et dans le cas de la littérature québécoise, j'ai combiné la technique narrative avec l'identité collective, de l'identité sexuée, comme on dit au Québec, l'identité de gender. Est-ce qu'il y a un mot français maintenant en France pour gender?
Genre.
Genre, on dit genre. Ah oui. Oui, non, au Québec, c'est sexuation opposée à sexe, parce que le sexe est biologique, le genre, d'accord.
C'est genre et sexe.
D'accord, parfait. Oui, et bon, identité de classe sociale, ça joue chez Maupassant, et l'identité de groupe culturel, les Québécois, comme je l'ai dit, qui essaient de se définir par rapport à la France, bien sûr, les origines, mais aussi par rapport au Canada anglais, par rapport aux États-Unis. Donc ça joue dans beaucoup de textes québécois. Bon, ensuite, à la fin de ce petit dossier, je vous donne encore les niveaux narratifs du récit encadré, juste comme un petit mode de schéma théorique. Ça va jouer pour le récit que nous allons analyser, La Bûche. Hein, mais je n'y insiste pas, mais là, c'est la structure narrative du récit encadré. Bon, voilà, j'ai essayé de vous donner une idée de mon approche narratologique, du modèle théorique, pour ainsi dire. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions? Est-ce que j'ai été trop rapide? Ça arrive aussi, hein, non? On espère qu'on a été parfaitement clair, on n'est pas sûr, hein, dans ce cas-là. Mais vous voyez un peu l'objectif? Et l'approche théorique, ensuite on va travailler avec les textes et on va voir dans deux exemples concrets comment ça marche.
Je vérifie ça. Quand vous parlez du plan perspectif psychique, la page 19,
oui.
En fait finalement il y a deux questions. Il y a la question qui voit et la question qui sait.
Oui, non, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, parce que, oui, à mon avis, la terminologie de Genette est un peu ambiguë, avec focalisation interne. C'est d'une part, il y a un personnage focalisateur, donc le sujet de la perception, mais c'est combiné avec la perception interne de ce personnage. Et je préfère les dissocier, c'est plus clair. Il y a eu tout le débat avec Mittebal là-dessus, parce que, bon, il y a Passepartout et Phileas Fogg, dans ce cas-là, il disait que c'est d'une part une focalisation externe sur l'autre, mais c'est aussi une focalisation interne, parce qu'on regarde avec Phileas Fogg. Bon, je préfère les distinguer. Dans ce cas-là, c'est clair et qui voit, qui est le sujet de la perception, et ce n'est pas toujours la vue, mais bon, la perception, ça peut être aussi l'ouïe ou... tous les sens finalement, et ensuite effectivement quelle est la quantité de savoir sur l'objet perçu, hein, donc effectivement deux critères.
Je crois que c'est fondamental cette question du qui sait, parce qu'elle se pose vraiment à l'écrivain à longueur de temps, de savoir lui, il sait tout.
Oui.
Effectivement, est-ce que le narrateur va savoir autant que l'auteur,
oui,
ou pas, et est-ce qu'il va le dire ou pas?
Tout à fait.
Il y a toute la question du mensonge au lecteur ou de la,
de
ce qui est dissimulé au,
oui,
lecteur. Qui,
oui.
Effectivement, le fait que les personnages ne savent pas tous la,
non,
même chose.
Non, c'est ça. Oui, tout à fait.
Entre le schéma de la page 17 et 18, donc narration,
oui,
et narration, vous avez le deuxième personnage acteur utilisé les lettres différenciées, c'est-à-dire B comme premier cas et puis D dans le second. Est-ce que c'est parce que vous pensez que la relation dans le récit est entre l'acteur et le narrateur extérieur est différente de celle du personnage acteur, enfin, la relation entre personnage acteur et personnage auteur dans le second type de récit, c'est-à-dire comment il est.
Oui, oui, parce que dans ce cas-là, il y a un même personnage qui raconte et qui vit l'action. Il y a un jeu narrant, il y a un jeu narré. Alors que dans le cas de la narration hydrodiégétique, c'est dissocié. Il y a un narrateur qui le vit. Et il y a un acteur qui le vit, pour ainsi dire. Et ce n'est pas intégré dans le même personnage. Hein, il y a deux instances différentes, alors que dans la narration homodiégétique, c'est intégré dans le même personnage.
D'accord, mais ma question porte sur la nature de l'acteur,
oui,
lui-même.
Non, là, il n'y a pas de différence.
D'accord.
Non, comme j'ai dit, j'ai une conception anthropomorphique d'un tel acteur.
D'accord.
Oui. Hein, mais quand même, dans la narration homédiégétique, il y a la parole aussi. Il y a la parole narrative qui est intégrée dans le même personnage. Et là, il y a la différence. Mais vous avez raison, pour l'acteur, dans les deux cas, j'ai une conception anthropomorphique, disons, d'un acteur.
Et quand vous distinguez entre narrateur, auteur, acteur, actor, est-ce que ce sont des discours, ce sont deux discours qui se marient, ou est-ce que...
Oui, aussi, mais bon, il y a... Oui, bon, il y a là, comme Genette le disait, qui parle et qui voit. Hein, donc, dans la narration hydrologique, il peut y avoir un narrateur qui parle, mais qui adopte la perspective narrative, la focalisation d'un acteur, mais il peut adopter aussi sa propre focalisation. Donc là, il y a deux possibilités.
D'accord.
Et effectivement, dans les discours, il y a, ça peut changer d'une phrase à l'autre, et même à l'intérieur d'une même phrase, il peut y avoir des éléments déjà d'un acteur. On va le voir dans le roman d'Anne Hébert aussi.
Et puis, deuxième question, est-ce que vous mettez la distinction entre qui voit et qui parle,
ou oui,
comme ça peut être un narratologue et qui essaie de réunir les deux?
Non, oui, je différencie nettement.
D'accord.
Oui, oui. Puis effectivement, parce que le narrateur dans la narration hétérodiégétique a deux possibilités. C'est toujours le narrateur qui parle, mais c'est donc qui parle le narrateur, mais il a après deux possibilités d'adopter sa propre focalisation, hein, la description de la pension vocaire chez Balzac, ou bien d'adopter la focalisation d'un acteur. Et bien sûr, là il y a toutes sortes de degrés. Est-ce qu'il va adopter aussi le registre verbal d'un acteur dans ce cas-là? Là, il y a les problèmes analysés chez Flaubert. On a dit parfois, il y a la focalisation d'Emma Bovary, mais le registre verbal est plus intellectuel que les capacités d'Emma Bovary. Hein. Donc, il y a, bon, on peut nuancer à l'extrême, effectivement, hein, parce que, bon, effectivement, il y a la focalisation d'Emma Bovary, mais on peut se demander, est-ce que le style utilisé est conforme au niveau de langage d'Emma Bovary? Hein, mais dans ce cas-là, on va nuancer encore davantage. Mais c'est intéressant, bien sûr. Oui, d'accord. On peut passer à Anne Hébert dans ce cas-là pour voir un exemple pratique. Alors là, c'est l'autre dossier. Au fond, c'est grâce à l'œuvre d'Anne Hébert que j'ai découvert la littérature québécoise et que j'ai fondé un centre d'études canadienne et établi des échanges avec cette université au Canada et au Québec. C'est une œuvre superbe, à mon avis, tout à fait intéressante, une œuvre innovatrice. Alors, Anne Hébert est une romancière et poète québécoise qui a vécu de 1916 à 2000. Elle a publié une douzaine de romans, couronnés de prestigieux prix littéraires, tels que le prix des libraires pour Kamouraska, justement, le prix Fémina pour Les Fous de Bassan, en 1981, le prix du gouverneur général. Elle a passé une trentaine d'années de sa vie à Paris, et pour lui rendre hommage, j'ai copié justement sa photo devant la Notre-Dame. Elle avait un petit appartement près de la boulevard Montparnasse. Et c'est là qu'elle a vécu d'abord dans de petites chambres d'hôtel, mais finalement, avec Kamouraska, elle a eu beaucoup de succès. Elle a pu s'acheter un petit appartement. Elle est incontestablement l'auteur le plus renommé du Québec, reconnu également par plusieurs doctorats honorifiques. D'ailleurs, vous pourrez acheter ses romans à la librairie du Québec, que j'ai copié aussi à la page suivante. Et il en était même pour mon livre, d'ailleurs, L'Armatan, distribué pas bien. C'est plus que ça passe par le Québec et par la librairie du Québec. Avec la publication de Kamouraska, de 1970, Anne Hébert acquiert une renommée internationale consacrée par le prix des libraires ainsi que par l'adaptation cinématographique de son roman par Claude Jutras. Alors, dans le dossier, j'ai résumé un peu, donc ça permet de suivre plus facilement mon exposé et mon analyse de ce roman qui est très complexe. L'action de ce roman se déroule dans le Canada français du 19e siècle. Le narrateur anonyme introduit la protagoniste Élisabeth Roland, qui doit rester dans la ville de Québec auprès de son second mari, le notaire Jérôme Roland, qui est sur le point de mourir. Ensuite, elle évoque elle-même son passé mouvementé, et ainsi ressurgissent les épisodes successifs de sa vie, qui sont représentés également par ses noms successifs. On va le voir, et c'est souvent le cas chez Anne Hébert qui a une triple identité liée à des noms spécifiques aussi. Ça joue dans plusieurs romans d'Anne Hébert. Alors, il y a d'abord son propre nom, Élisabeth Daunière, son enfance. Ensuite, à l'âge de 16 ans, elle se marie avec Antoine Tassy, le seigneur de Kamouraska. C'est un petit village sur les bords du Saint-Laurent. Le seigneur de Kamouraska. Elle est maltraitée par son mari et elle commence alors une liaison avec le docteur George Nelson qui, sur son instigation, assassine son mari. Après cet assassinat, elle doit s'innocenter et elle va se marier avec M. Roland. Alors, nouvelle identité, nouveau nom, elle sera l'épouse du notaire de la ville de Québec. Et à la fin du roman, l'évocation de sa vie passée rejoint le moment présent de la narration. Alors, on va le voir en détail après. Je vais commencer par expliquer la forme narrative du roman. Ensuite, la technique narrative du roman sera mise en relation avec la recherche identitaire d'Élisabeth, avec ses problèmes identitaires. Nous verrons alors que les transgressions du code social que la protagoniste commet dans la diégèse se combine sur le plan énonciatif avec des transgressions narratives. Donc vous voyez là ma fascination personnelle, transgression narrative et transgression sur le plan de la diégèse, forme et signification reliées. Alors d'abord, pour la forme narrative du roman, il y a eu un énorme débat sur la technique narrative du roman, mais à mon avis, on peut distinguer deux instances narratives dans ce roman. D'abord, un narrateur anonyme qui raconte, pour ainsi dire, un récit premier, et c'est ce narrateur qui assume la narration du début du roman et de la fin du roman. Et deuxième instance narrative, Madame Roland elle-même, qui fait une sorte de récit second, et c'est la majeure partie du roman, la partie centrale du texte. D'abord, le narrateur anonyme, et c'est donc dans la terminologie de Genette, un narrateur extra-diégétique et hétéro-diégétique. Un narrateur qui raconte le début du roman et qui raconte aussi la fin du roman. Alors j'ai copié l'introduction du livre, donc les premiers paragraphes du roman, et là vous allez voir, et justement aussi votre question, votre remarque, d'abord c'est vraiment le narrateur et la focalisation du narrateur, mais de plus en plus il y a des éléments Madame Roland qui sont focalisés par elle, et finalement il y aura un monologue intérieur, donc on s'identifie à l'actrice, au personnage, acteur. C'est le début du roman. L'été passa en entier. Madame Roland, contre son habitude, ne quitta pas sa maison de la rue du Parloir, dans la ville de Québec. Il fit très beau et très chaud, mais ni Madame Roland ni les enfants n'allèrent à la campagne cet été-là. Hein, vous voyez qui parle, c'est le narrateur, et on pourrait dire, ça semble quand même aussi focalisé par le narrateur qui explique la situation dans le premier paragraphe du roman. Son mari allait mourir, et elle éprouvait une grande paix, là quand même déjà des aspects de sa vie intérieure. Cet homme s'en allait tout doucement, sans trop souffrir, avec une discrétion louable, dans l'optique sans doute de son épouse, mais aussi de son entourage. Madame Roland attendait, soumise et irréprochable. Hein, elle veut que l'opinion publique soit, qu'elle soit soumise et irréprochable. Et justement, nous allons voir, c'est une femme qui se révolte, qui ne se conforme pas. Hein, mais c'est l'image qu'elle aimerait avoir. Et c'est un peu sa propre opinion, c'est sans doute aussi l'opinion publique. Mais vous voyez donc, votre remarque, effectivement, il y a toutes sortes d'aspects déjà focalisés par Madame Roland. Si son cœur se serrait par moments, c'est que cet état d'attente lui paraissait, quand même aussi sa vision, devoir prendre des proportions inquiétantes. Cette disponibilité sereine qui l'envahissait jusqu'au bout des ongles ne laissait présager rien de bon, hein, parce qu'elle est l'épouse conforme, mais cette disponibilité lui offre peut-être quand même des possibilités de transgresser de nouveau le code social, de retrouver peut-être quand même l'amour d'autrefois, etc. Justement, la fin du roman, ça revient. Tout semblait vouloir se passer comme si l'essence même de son attente réelle allait lui être bientôt révélée, au-delà de la mort de l'homme qui était son mari depuis bientôt 10 ans. Mais déjà, l'angoisse exerçait ses défenses protectrices. Elle s'y rapprocha comme une rampe de secours. Tout plutôt que cette paix mauvaise. Alors là, elle passe, le narrateur passe au monologue intérieur, donc focalisation de Madame Roland. Il aurait fallu quitter Québec, ses pensées intérieures. Ne pas rester ici, seul dans les déserts du mois de juillet. Il n'y a plus personne que je connaisse en ville. Si je sors, on me regarde comme une bête curieuse. Elle a été complice du meurtre de son premier mari et elle est paranoïaque. Elle a l'impression que tout le monde la suspecte quand même aussi de la mort de son second mari. Comme ces deux voyous m'examinaient ce matin en revenant du marché, longtemps ils m'ont suivi des yeux. Je ne devrais pas sortir seul. Hein, donc vous voyez, dès le début du roman, narrateur hétérodiégétique, extra-diégétique, mais quand même déjà passage à la focalisation de Madame Suzanne.
Oui. Est-ce que les italiques sont dans
le... Non, c'est moi.
D'accord.
Oui. Le narrateur hétérodiégétique commence par adapter donc son propre point de vue pour passer ensuite à la focalisation d'Élisabeth, dont il rapporte enfin le discours sous la forme d'un monologue intérieur intégré dans son propre discours. Ce narrateur anonyme, extra-diégétique, hétérodiégétique sert donc à décrire les actions des personnages, en particulier dans l'introduction du roman et dans la conclusion du roman. Ensuite, Élisabeth Roland, comme narratrice diégétique et homodiégétique. Et c'est la majeure partie du roman que vous voyez, la page 40 à 249. Afin de pouvoir s'endormir, Élisabeth Roland prend une poudre avec un peu d'eau. Elle se couche, hein, donc une poudre pour s'endormir, elle se couche et elle évoque ensuite elle-même, pendant plus de 200 pages, son passé dramatique dans une sorte de rêve qui se termine vers la fin du roman, où elle mentionne de nouveau la poudre qui l'a fait trop dormir. Madame Roland peut donc être envisagée comme la narratrice de ce type de récit second, qui est qualifié par Genette de récit intérieur, ni oral, ni écrit. Hein, c'est une sorte de rêve sous forme de récit. Sur le plan idéologique, on peut dire que, en tant que narratrice diégétique, homodiégétique, elle remplit ainsi un rôle actif de femme sujet. Parce que Elisabeth, en assumant la narration du récit, elle assume ainsi sa propre vie et elle essaie de posséder sa propre vie en la racontant à sa propre manière. Bon, il y a donc, à mon avis, deux instances narratives. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur la narration d'Elisabeth Roland et nous allons combiner l'analyse de la narration transgressive avec la recherche identitaire d'Elisabeth. Hein, donc, de nouveau, forme narrative et contenu narratif, cette fois-ci, la problématique identitaire d'Elisabeth. Car Elisabeth se caractérise tout au long du roman comme un personnage double, hésitant entre le conformisme au code social et le désir de transgression et de révolte. Nous allons regarder la recherche identitaire d'Elisabeth pendant les trois étapes de sa vie, qui sont désignées donc par les trois noms successifs. Adoptant une approche narratologique et thématique, impliquant donc certains aspects idéologiques féministes, j'essaierai de montrer comment le dualisme identitaire d'Elisabeth est exprimé par le dédoublement narratif et comment ces transgressions narratives sont combinées avec des transgressions narratives. Hein, donc vous voyez le double, le dualisme d'Elisabeth amène un dédoublement narratif et les transgressions sociales sont combinées avec des transgressions narratives. Alors d'abord, Elisabeth d'Aulnières. Alors là, c'est son nom de jeune fille. Comme jeune enfant, Elisabeth d'Aulnières porte son propre nom et vit sa propre vie. Échappant à la surveillance de sa mère, devenue veuve dès avant sa naissance, elle jouit d'une liberté de vrai sauvage homme. Dès que c'est un peu plus poétique, c'est un hiver, hein, c'est pas mon analyse narrative. Elle se comporte vraiment comme une vraie sauvageonne. Et on dit dans le texte, elle a le diable dans le corps. Et on n'arrive pas à la mater. Avec sa taille de petit garçon tondu, elle s'échappe par une fenêtre, rejoint un tas de petits gamins. Hein, donc, comportement transgressif, elle se comporte comme un garçon. Cependant, à l'âge de 7 ou 8 ans, elle aménage chez ses tantes célibataires et c'est là que son éducation commence, dit-on dans le texte. Et elle doit apprendre l'anglais, le catéchisme et les bonnes manières. Ses tantes entreprennent de convertir à la féminité ce garçon manqué. Ses cheveux se mettent à repousser vertigineusement et respectant la loi du monde, elle a ses premières règles. Hein, donc, période conformiste, forcée par l'éducation de ses tantes. Mais l'appel de la liberté reste cependant, intriguée par sa sexualité latente, elle a envie de sortir avec des garçons, ainsi que le fait une compagne transgressive qui est qualifiée de sorcière. Hein, et elle aussi, c'est la femme révoltée qui est souvent comparée en littérature avec la sorcière. Donc vous voyez, comme Elisabeth d'Aulnières aussi, son comportement est successivement transgressif, conformiste, forcé par l'éducation de ses tantes, et de nouveau transgressif. Ensuite, nouveau nom, nouvelle identité, Madame Tassy. Alors que ses tantes estiment que ce n'est pas un passe-temps convenable pour une jeune fille, Élisabeth participe à une partie de chasse, comme chasseresse, parmi de mâles compagnons. Elle y rencontre Antoine Tassi et le seigneur de Kamouraska, un voyou de bonne famille qui l'attire par sa sensualité. Donc là, il y a d'une part conformisme parce que c'est un seigneur, d'autre part transgression, l'attraction de la sensualité. Je cite, « Cette lueur sensuelle qui illume ses joues comme de petites vagues claires, il a envie de me coucher là, dans les joncs et la boue, et cela me plairait aussi d'être sous lui, me débattant, tandis qu'il m'embrasserait les visages avec de gros baisers mouillés. » Étant conforme aux conventions sociales, le mariage est accepté avec fierté. On dit dans les textes, très bon parti, vieille famille, 250 arpents de terre et de bois. Et alors, au nom d'Élisabeth d'Aulnières, succède celui de Madame Tassi. Alors, la personnalité d'Élisabeth se caractérise donc par son ambivalence, balançant entre le conformisme et la révolte. Cette ambivalence se manifeste également dans ses nouveaux rôles de Madame Tassi, comme épouse du seigneur de Kamouraska, et ensuite comme Madame Roland, dans son mariage avec le notaire Roland. Cette tension va créer un conflit intérieur dans l'identité personnelle, conformiste et transgressive, de Madame Tassi et également de Madame Roland. Ce dualisme identitaire provoque également l'attitude ambivalente de Madame Roland envers le rôle qu'elle a joué autrefois comme Madame Tassi. Car nous allons voir, parfois elle s'y identifie à son rôle de Madame Tassi, mais à d'autres moments, elle tient à s'en distancier. Le dualisme identitaire se manifeste alors par un dédoublement psychologique qui va entraîner des dédoublements narratifs. Sur le plan de l'action, Madame Tassi transgresse le code social traditionnel parce qu'elle va commencer une liaison avec le docteur George Nelson, et ensuite elle transgresse de nouveau par sa complicité dans le meurtre de son mari. Possédée, elle se transforme alors en sorcière. Ce comportement transgressif de Madame Roland se combine avec des transgressions narratives. Alors, je vais entamer de nouveau la technique narrative, mais vous voyez maintenant en rapport avec le dualisme identitaire. Alors, ce qu'on voit dans le texte, c'est une énonciation homodiégétique, mais non seulement sous la forme de « je », mais également sous la forme de « elle ». Alors que la narration homodiégétique s'est fait traditionnellement à la première personne, Madame Roland révèle la scission de sa personnalité par l'emploi successif des pronoms « je » et « elle ». C'est ainsi qu'elle commence par adopter la première personne d'Élisabeth Tassi, qui constate tout de suite l'échec de son mariage avec Antoine Tassi. Antoine Tassi, c'est un personnage terrible, suicidaire, violent, débauché. Alors elle constate « je suis mariée avec un homme que je n'aime pas ». Pour exprimer ensuite son aliénation par rapport à la poupée mécanique des personnalités qu'elle fut autrefois, elle poursuit en parlant d'elle-même à la troisième personne. Et alors c'est l'autre citation toujours dans le dossier, « penser à soi à la troisième personne ». Feindre le détachement. Ne pas s'identifier à la jeune mariée tout habillée de velours. Voici la mariée qui bouge, poupée mécanique, appuyée au bras du mari, elle grimpe dans la voiture. Hein, mais vous voyez, elle parle quand même d'elle-même, mais dans son rôle de Madame Tassi, poupée mécanique, et qui se marie avec Monsieur Tassi. Finalement, Madame Roland tient à se distinguer de Madame Tassi en déclarant « Quant à moi, je suis Madame Roland, et je referai mon premier voyage de noces qu'on me raconte une histoire sans trop y croire avec un sourire amusé, même si le bonheur tourne au vinaigre, au fiel le plus amer. » Le clivage dans la personnalité d'Élisabeth est donc exprimé sur le plan énonciatif par la scission pronominale « je » et « elle ». En dépit de sa tentative de maîtriser son récit par la distanciation, Madame Roland ne peut plus s'empêcher de se replacer dans la peau de Madame Tassy pour évoquer sa liaison avec le docteur Nelson. Et c'est alors qu'elle repasse du « elle » de Madame Tassy au « je » de Madame Tassy pour revivre son passé amoureux. Hein, vous voyez, son passé amoureux, elle veut bien le revivre. Alors c'est « je ». Alors que le mariage avec Tassy, homme violent, c'est plutôt « elle ». Donc elle s'identifie à Madame Tassy quand elle repense à son amour. « Je pourrais encore m'échapper, ne pas provoquer la suite, reprendre pied rue du parloir, ouvrir les yeux enfin, hurler la main en porte-voix, je suis Madame Roland. Trop tard, il est trop tard, le temps retrouvé s'ouvre les veines, ma folle jeunesse s'ajuste sur mes os, mais pas dans les siens, comme on pose ses pieds dans ses propres pistes sur la grève mouillée. Le meurtre et la mort, hein, l'assassinat de son premier mari, retraversé, le fond du désespoir touché, que m'importe, pourvu que je retrouve mon amour. Hein? Donc, elle veut bien dire « je » quand elle repense à sa liaison amoureuse avec Nelson. Alors, elle va se libérer du corset et du masque de son conformisme d'épouse de notaire, et elle s'identifie alors à son rôle d'amante d'autrefois, et revit son passé amoureux. « Je dis « je » et je suis une autre. » Foulée aux pieds la défroque de Madame Roland, aux orties le corset de Madame Roland, hein, parce qu'elle s'est mariée avec le notaire pour s'innocenter. Hein, après inciter Nelson à assassiner M. Tassy, elle a épousé un notaire pour s'innocenter. Maintenant, elle se libère de nouveau de son corset d'épouse de notaire, au musée, son masque de plâtre. Je ris et je pleure, sans vergogne. J'ai des barreaux à jour, une large ceinture sous les seins. Je me déchaîne. J'habite la fièvre et la démence, comme mon pays natal. J'aime un autre homme que mon mari. Cet homme, je l'appelle du jour et des nuits, Dr. Nelson, Dr. Nelson. Alors, elle renoue donc avec la liberté d'autrefois, de l'époque de son enfance. Elle vit, elle pense de nouveau au désir absolu qu'elle a vécu avec Nelson. Mais, par Nelson, elle tombe enceinte. Évidemment, à cette époque-là, elle ne peut déclarer ouvertement qu'elle est enceinte de son amant. Et à ce moment-là, elle se voit obligée de nouveau d'avoir recours à des stratégies pour cacher qu'elle est enceinte de son amant. À ce moment-là, elle se conforme de nouveau au code social et elle couche encore une fois avec son mari pour sauver son honneur et pour faire semblant qu'elle est tombée enceinte de son mari. L'emploi de la troisième personne à ce moment-là exprime de nouveau sa dissociation et son aliénation. Alors il y a dans le texte, de nouveau donc à la troisième personne, l'épouse irréprochable pourra annoncer qu'elle est à nouveau enceinte de son mari. Hein? Donc vous voyez, aliénation, parce qu'elle est enceinte justement de son amant, mais dans ce contexte social, elle ne peut le dire. Il s'agit d'un bébé de son amant, mais elle montre son aliénation par la troisième personne. Alors Madame Tassy reste double, je suis l'amour et la vie et la mort, et elle incite alors Nelson, son amant, à assassiner son mari. Madame Roland reprend alors la troisième personne afin de se dissocier de Madame Tassy. La jeune femme écrit avec application sur une feuille de calepin un mot très court et net qu'elle passe au jeune homme. Il faut tuer Antoine. Hein, donc vous voyez, elle a incité son amant à tuer son mari, mais pour se disculper, pour ainsi dire, pour se dissocier, elle part d'elle-même à la troisième personne. Le jeune homme écrit sur le calepin à la suite de la jeune femme, c'est une affaire entre Antoine et moi. Au moment où Madame Roland rapporte le récit que Nelson lui a fait de l'assassinat d'Antoine Tassy, elle tente encore de nier sa complicité en se retranchant derrière son identité de Madame Roland. Alors elle dit, laisse-moi m'en aller, devenir Madame Roland à jamais, m'exclure de ce jeu de mort entre Antoine et toi, innocente. Je suis innocente. Hein, dans ce cas-là, elle ne veut plus être Madame Tassy, avec son amant, avec son incitation au meurtre. Je suis innocente, elle est la femme du notaire. Lorsqu'elle imagine son arrestation par deux policiers, elle dissocie à nouveau Madame Tassy, elle se dissocie de Madame Tassy, elle se dit double. Vous vous trompez, je ne suis pas celle que vous croyez. J'ai un alibi irréfutable, un sauf-conduit bien en règle. Laisse-moi m'échapper, je suis Madame Roland, épouse de Jérôme Roland, notaire exerçant à la ville de Québec. Je n'ai rien à voir avec les mystères défunts et peu édifiants de cette maison de briques au coin de la rue Augusta et Philippe dans la ville de Sorel. Il y a erreur sur la personne. Vous voyez donc que la technique narrative de la narration homodiégétique aux formes pronominales « je » et « elle » contribue aux effets d'identification, hein, au moment où elle veut revivre son amour, et aux effets de dissociation quand elle veut se dissocier de Madame Tassy pour se disculper, pour s'innocenter. Ce qui joue aussi dans le texte, autre transgression narrative donc, c'est l'emploi de « je » et de « vous ». Persécutée par la conscience de sa culpabilité, elle semble s'adresser également à elle-même, à la deuxième personne. Elle se dédouble alors en une accusatrice et une accusée. Alors elle dit « irréprochable, vous êtes irréprochable hein ». Donc elle s'adresse à elle-même, à la deuxième personne. « Mais vous n'êtes qu'une absente, Madame Roland, inutile, déniée, etc. » Hein, donc vous voyez, là aussi, transgression narrative par d'elle-même à la deuxième personne. Le dédoublement psychologique est donc exprimé par le dédoublement narratif « je, elle » et « je, vous ». Elisabeth est donc une personnalité double, une personnalité clivée. Madame Roland commet encore d'autres transgressions narratives. On a vu dans la théorie narrative, dans le petit modèle, dans la narration homodiégétique, hein, le personnage narrateur n'est pas omniscient, ni omniprésent. Alors que dans le texte, nous allons voir que Madame Roland transgresse la technique narrative homodiégétique là aussi. Pour raconter le voyage de son amant, de Nelson à Kamouraska, dans le but d'assassiner M. Tassy, Madame Roland transgresse la narration homodiégétique traditionnelle par des parallèpses, en révélant une omniscience et une omniprésence qui ne sont admises normalement que dans la narration hétérodiégétique auctorienne. Hein, comme on l'a vu chez Balzac, là, c'est possible, c'est accepté traditionnellement, mais évidemment, il y a des transgressions si elle déclare être omnisciente. Alors, par exemple, elle dit « Je suis Madame Roland et je sais tout ». Elle s'identifie à Elisabeth Tassy qui vit la scène du meurtre avec une telle identité qu'elle s'attribue les dons de l'omniprésence et de l'omniscience. Parce que, évidemment, Madame Tassy n'était pas là au meurtre. Il y a une centaine de kilomètres dans la neige et c'est beaucoup plus loin donc que son amant a assassiné dans les champs de neige le seigneur de Kamouraska, mais elle s'imagine être là, elle s'imagine comme voyante. Alors il y a dans le texte, c'est le moment où il faut se dédoubler franchement, accepter ces divisions définitives de tout mon être. J'explore à fond le plaisir singulier de faire semblant d'être là. Elle se comporte comme une voyante, et elle voit tout. Moi, Elisabeth Daunière, non pas témoin, mais voyante et complice, afin que je voie tout et que j'entende tout, nulle part en particulier et partout à la fois. Hein, donc, omniscience et omniprésence. En dépit de la distance, elle montre sa capacité de décrire le meurtre d'Antoine Tassy commis par son amant Nelson. le 31 janvier 1839, ce jour-là entre tous, comme je vois bien tout en entier et en détail. Autre transgression narrative, l'introspection de Nelson. Un acteur ne peut pas savoir ce qui se passe au fort intérieur d'un autre acteur. Donc il y a transgression narrative, parce que Madame de Roland transgresse la narration homodiégétique par son introspection de Nelson. Elle adopte la focalisation d'Elisabeth Tassi, qui rêve la passion de Nelson, qui s'identifie à Nelson et qui est double et féroce avec lui. Et ainsi elle déclare « J'éprouve, jusqu'à la limite de sa raison, l'engourdissement du froid dans le bas du fleuve et, éprouvant à même ses nerfs tendus, l'incomparable insomnie de cet homme. » Cette fusion d'Elisabeth avec Nelson est rompue de nouveau par la dissociation au moment où elle se retranche de nouveau derrière son identité de Madame Roland. Elle se distancie alors du meurtre. Donc au moment où effectivement Nelson a assassiné son mari, elle veut de nouveau s'innocenter après la révolte, la transgression du code social. Elle se conforme de nouveau et elle essaie de se déculpabiliser. « Vous parlez en langue étrangère, docteur Nelson. Non, je ne connais pas cet homme. Je suis Elisabeth Daunière, épouse en première noce d'Antoine Tassi, seigneur assassiné de Kamouraska, épouse en seconde noce de Jérôme Roland, notaire de Québec de père en fils depuis X générations. Je suis innocente. » Par toutes ces stratégies narratives, Elisabeth Roland essaie donc de dominer son passé. Elle veut bien revivre son amour, mais sans accepter sa complicité dans le meurtre. Après avoir transgressé le code social par sa liaison avec Nelson et par le meurtre de Tassi, Elisabeth s'y conforme de nouveau par son mariage avec le notaire Roland. Le notaire Roland lui offre un nom pur et sans tache, de sorte que l'honneur est rétabli. Donc, conformisme de nouveau. Cependant, elle reste toujours partagée entre le respect de l'ordre du monde et son aspiration à la liberté. Au moment où va retrouver son état de disponibilité, on l'a vu au début du roman, cet état de disponibilité, après la mort de son mari, elle se révolte de nouveau et elle rêve de retrouver son amour en rejoignant Nelson, son amant, aux États-Unis. Lui, il est parti aux États-Unis pour fuir la police. L'honneur, donc elle va se révolter de nouveau contre le conformisme. L'honneur, quel idéal à avoir devant soi lorsqu'on a perdu l'amour. L'honneur, la belle idée fixe à faire miroiter sous son œil. Quelle duperie! C'est cela une femme honnête, une dingue qui marche, fascinée par l'idée qu'elle se fait de son honneur. Rêver, m'échapper, perdre de vue l'idée fixe, relever mon voile de deuil, regarder tous les hommes dans la rue, tous, un par un, être regardé par eux. Et le regard, c'est un substitut de la sexualité. Dans les fous de bassin, il y a toujours le regard qui joue. Fuir la rue du parloir, rejoindre mon amour à l'autre bout du monde, à Burlington, aux États-Unis. D'après certains critiques de ce roman d'Anne Hébert, Madame Roland céderait au conformisme à la fin du roman. Effectivement, on pourrait avoir cette impression lorsqu'elle prétend « Je n'ai plus qu'à devenir si sage qu'on me prenne au mot. Fixer le masque de l'innocence sur les os de ma face. » Mais quand même, c'est un masque. « Accepter l'innocence en guise de revanche ou de punition. Jouer le jeu cruel, la comédie épuisante, jour après jour. » Jusqu'à ce que la ressemblance parfaite me colle à la peau. La dernière phrase du roman pourrait faire croire également qu'elle finit par se conformer à la société bourgeoise. Dans la dernière phrase du roman, le narrateur extra-diégétique, hétéro-diégétique de nouveau, signale « Voyez donc comme Madame aime Monsieur, voyez comme elle pleure. » Cependant, cette interprétation de son choix définitif pour le conformisme néglige l'ironie et l'ambiguïté de ce roman. La caractérisation d'Élisabeth comme épouse modèle, hein, dans le texte, contraste dans la même page avec la description du déterrement d'une femme noire vivante datant d'une époque reculée et sauvage, dotée d'une féroce faim de vivre accumulée sous la terre depuis des siècles. Hein. Bachelard, une femme qui surgit de la terre. D'après Patricia Smart, cette image recèle toute l'énergie féminine réprimée par la culture patriarcale. Comme le confirmisme se combine de nouveau avec sa transgression, le roman garde donc jusqu'au bout sa polysémie fascinante. Alors il y a dans le roman une scène intéressante aussi, où il s'agit d'une scène où Élisabeth d'Aulière est en train de faire une broderie en compagnie de ses tantes. Et à ce moment-là, elle choque ses tantes parce qu'elle ne peut pas s'en tenir au modèle qui est représenté par un livre de broderie qui s'intitule « La parfaite brodeuse de Boston ». En compagnie de son amant Nelson, elle brode une fleur trop rouge. Et c'est une fleur symbolique de leur passion, mais c'est également une fleur de sang, comme on dit dans les textes, symbole du meurtre. Vous voyez donc que la transgression de la broderie est associée dans le roman aux transgressions sociales de l'adultère et de l'assassinat, la fleur de la passion et la fleur du meurtre. Mais la tapisserie peut être interprétée également comme une métaphore du texte, comme une métaphore du roman. Et dans ce cas-là, la transgression du modèle de la broderie peut renvoyer aux multiples transgressions narratives. On peut donc conclure que l'analyse narrative et thématique a permis de révéler que Kamouraska est un roman transgressif tant sur le plan narratif que diégétique. Voilà, comme exemple.